Avec Gaël Giordana.
Et à 8h43, c'est l'heure de nos esprits libres avec chaque lundi. Luc Ferry, bonjour cher Luc.
Oui, bonjour cher ami.
J'espère que vous allez bien.
Mais ça va être en pleine forme.
En pleine forme.
Malgré mes bientôt 73 ans.
Ah. On va parler aujourd'hui d'un thème qui touche énormément de Français, la crise du travail dans notre pays. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'employer ce terme de crise du travail. Oui. Et nous allons aller à la racine de ce phénomène. Mais juste avant quand même, un mot de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, dont on a parlé avec Guillaume Tabard, notamment Madame Braun-Pivet, campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Comment un homme politique peut-il employer ce terme, ces termes, Luc Ferry ?
Je voudrais être très clair, je ne vais pas défendre Mélenchon. Moi, je suis un soutien fervent d'Israël. Je pense que le Hamas est évidemment une organisation terroriste et je pense que le Hamas a commis des crimes contre l'humanité. Ce ne sont pas des crimes de guerre, contre des civils israéliens. Donc, je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, je pense qu'on se trompe sur Mélenchon et c'est important de ne pas s'y tromper quand on pense qu'il est antisémite et que ce qu'il critique, ce qu'il déteste, il a une véritable haine d'Israël. C'est pas ouais. Douteux. Bon. Mais ce qu'il déteste dans Israël, c'est pas l'État hébreu. Il n'est pas antisémite au sens où l'étaient les hitlériens ou l'extrême droite en Europe dans les années 30. C'est pas un antisémitisme racialiste et exterminateur. C'est pas ça. Ce que Mélenchon déteste dans l'État d'Israël, c'est pas l'État juif. Ce qu'il déteste, c'est l'État américain, c'est l'État occidental. Avec une logique qui est la sienne depuis déjà des années, qui est celle de toutes les extrêmes gauches en Europe, c'est l'idée que le musulman a remplacé le prolétaire. Un prolétaire qui s'est embourgeoisé, qui n'est plus révolutionnaire. Au fond, le seul révolutionnaire aujourd'hui, ce sont les damnés de la terre, comme on les appelait. Et donc, l'idée de Mélenchon, au fond, c'est que le nouveau prolétaire, le nouveau révolutionnaire, le nouveau anti-Occident, si je puis dire, le Sud qui se révolte, mais c'est même pas le Sud, parce que c'est un Sud qui est fédéré aujourd'hui par la Russie. Au niveau des BRICS. Bon, et donc ce Sud global, comme on dit, c'est même pas le tiers monde. On n'a plus de mots pour le désigner. Au fond, c'est les deux tiers du monde qui haïssent l'Occident, et c'est là-dessus que joue Mélenchon. Donc c'est pas sur un antisémitisme classique.
Mais quand même les mots camp à Tel Aviv, Madame Braun-Pivet est de confession juive.
Mais évidemment, les deux parents de Madame Braun-Pivet sont juives. Évidemment que cette dame, à juste titre, va soutenir Israël. J'en ferais autant si j'étais ministre. C'est pas le sujet. Encore une fois, je dis ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais dire que Mélenchon est antisémite, c'est passer à côté de ce qu'il a en tête. Ce qu'il a en tête vraiment, c'est la haine de l'Occident. C'est pas la même chose. Si vous voulez, pour l'État hébreu, c'est la double peine. À la fois, ils sont victimes de l'antisémitisme et ils sont victimes de l'anti-américanisme. Ouais. C'est ça qui pèse sur l'État hébreu. C'est les deux choses. Et pour l'extrême gauche, c'est d'abord et avant tout l'anti-Occident, l'anti-Amérique qui explique cette véritable haine de l'État d'Israël et ce soutien apporté au Hamas. Vous voyez, avec probablement des résultats électoraux, j'attends de voir ce que ça donnera pour Mélenchon, mais c'est pas sûr qu'il soit perdant sur le plan électoraliste.
Vous êtes inquiet de l'offensive de Sahal dans la bande de Gaza qui va... L'offensive terrestre, en tout cas.
Ma thèse, je comprends parfaitement que l'État hébreu veuille détruire le Hamas dans les mois qui viennent et que ce soit pour lui la première urgence. Je ne crois pas à une solution militaire. Voilà. On n'est plus à l'époque de Golda Meir. Golda Meir disait « je préfère les critiques aux condoléances ». D'accord. Mais aujourd'hui, il y a deux éléments nouveaux qui font que je pense qu'il n'y a aucune solution militaire. La solution ne peut être que politique. Un, c'est le fait que du temps de Madame Golda Meir, le nucléaire n'était pas une menace pour Israël. Aujourd'hui, c'est une menace pour Israël. L'Iran aura la bombe nucléaire dans les années qui viennent, peut-être même l'année prochaine. L'Iran, c'est 83 millions de personnes. Il y a des fous furieux là-bas. Israël, c'est 20 000 km² et c'est 9 millions d'habitants. C'est une chiure de mouche sur la carte. C'est rien. Ça peut être rasé par une bombe à neutrons. Donc, cette dimension militaire change la donne. Et la deuxième dimension qui change la donne, c'est que du temps de Madame Golda Meir, Daesh n'existait pas. Cette idéologie-là n'existait pas. Au fond, cet islamisme radical, fanatique, n'existait pas du temps de Madame Golda Meir. Donc, ces deux éléments nouveaux font qu'à mes yeux, il n'y a aucune solution militaire. Donc, je comprends parfaitement que Israël veuille dans le quart d'heure, si je puis dire, dans l'urgence, détruire la puissance militaire du Hamas et éventuellement du Hezbollah, mais ce sera le Hezbollah plus difficile encore, mais pour mettre en sécurité la population israélienne, je ne le nie évidemment pas, mais à terme, il ne peut pas y avoir d'autre solution que deux États, une solution politique. Ce que je trouve catastrophique en l'occurrence aujourd'hui, c'est que l'Union européenne s'étant alignée à mes yeux de manière absurde, je l'ai dit 100 fois ici, sur les États-Unis s'agissant de la guerre en Ukraine, nous n'avons plus aucune crédibilité aussi sur la guerre en Israël et sur le Sud global, comme on dit. On a perdu toute notre légitimité parce qu'on est devenu simplement un appendice un peu ridicule des États-Unis. Vous voyez, on n'a pas de voix aujourd'hui. On a perdu tout ce qu'une politique gaulo-mitterrandienne pouvait représenter face au monde arabe, face à Israël et aujourd'hui face à l'Ukraine. On a tout perdu, au fond, dans cette guerre en Ukraine. On est devenu simplement la roue de secours des États-Unis.
Alors, on va parler à présent, Luc Ferry, de la crise au travail, un thème qui vous est cher. Que se passe-t-il, Luc? Sommes-nous tous des Français au bord de la crise de nerfs avec le travail? Qu'est-ce qui se passe, selon vous?
Oui, il se passe quelque chose de très profond. C'est tout l'objet du livre que je viens de sortir, cette semaine même, s'appelle « La frénésie du bonheur », et qui commence justement, il s'adresse beaucoup aux chefs d'entreprise, par cette crise du rapport au travail, cette métamorphose du rapport au travail. Pourquoi? Il faut comprendre une chose, c'est que les deux grandes religions de l'après, du bonheur après, se sont effondrées, du bonheur différé. Au fond, le communisme passe en France de 30% à 2%, et le catholicisme, entre les années 50 et aujourd'hui, et le catholicisme en 1950, je vous donne les chiffres, ils sont fascinants, je les ai déjà donnés ici, mais pas dans ce contexte-là, il y a 45 000 prêtres diocésains en France en 1950, ils sont 4 000 aujourd'hui.
Divisé par 10.
Voilà. Il y a 95% des Français sont baptisés en 1950, je veux dire les communistes aussi, mais ils sont 30% aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'était des idéologies du bonheur différé. Le bonheur, c'était après, comme le troisième petit cochon. Le bonheur, c'était après la révolution pour les communistes, c'était après la mort pour les catholiques. Je vais vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous comprenez.
Oui.
Voilà. S'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, si je n'ai qu'une seule vie, réfléchissez à ça.
Il faut le bonheur immédiat, c'est
évidemment,
ce que vous dites,
oui. Psychologie positive, développement personnel, le bonheur en 15 leçons. Et si je veux le bonheur immédiat, alors je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. C'est pas pour rien qu'il manque 200 000 personnes. Il y a 200 000 postes offerts aujourd'hui dans la restauration et l'hôtellerie.
Et mais comme c'est un métier difficile, ce que vous dites, les gens n'y
voilà,
vont pas,
c'est ça? C'est un métier difficile, pas très bien payé, pas très reconnu socialement. Voilà. D'être serveur dans une brasserie. Et donc, et pareil, par exemple, dans les conducteurs de poids lourds, là aussi, les patrons de poids lourds, ils pleurent, ils trouvent personne, ils ont beau augmenter les salaires de 10 ou 15%, ça suffit pas, parce que il y a une demande de bien-être, il y a une demande de bonheur, de bien-être au travail qui est devenue exponentielle. 45% des salariés français disent pratiquer le quiet quit, c'est-à-dire la démission tranquille.
Silencieuse
ou démission tranquille, c'est-à-dire, bon, je garde mon job pour avoir le salaire en fin du mois, mais j'en fais le moins possible dans ma batte.
Voilà, je fais que les choses qui sont dans ma fiche de poste.
Juste pour avoir le salaire à la fin du mois, mais ma boîte, je m'en fous. Et deuxièmement, vous avez 47% d'augmentation des arrêts de travail qui sont pour beaucoup des arrêts de travail bidons. Et puis vous avez ce psychodrame qu'on a vécu sur la réforme des retraites avec l'idée que de passer de 62 à 64 était une horreur absolue. Alors que l'espérance de vie, on a pris 40 ans d'espérance de vie depuis 1900.
Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses? Parce que dans les Échos, ce matin, il y a un chiffre. Oui. 7% seulement des Français se disent engagés au travail. Oui. On est juste après l'Italie,
voilà,
grosso modo.
C'est ça. Et on a beau dire j'aime ma boîte, non. C'est pas vrai, on n'aime pas sa boîte et ce qu'on aime, c'est le salaire à la fin du mois, mais on n'aime pas le travail. Eh bien, c'est pour ça que je dis, mon livre s'adresse d'abord aux chefs d'entreprise et je leur dis, faites attention parce que si vous n'êtes pas capable de revaloriser le travail, de le rendre intelligent, de le rendre intéressant, de lui donner du sens. C'est la question du sens. Le sens au travail est devenu presque plus important que le salaire. Alors, je dis pas que le pouvoir d'achat est très important. Mais la question du sens, l'organisation des horaires,
la vie personnelle, la vie professionnelle,
la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, notamment pour les jeunes diplômés qui veulent que l'entreprise ait du sens aussi du point de vue écologique. Tout ça rentre en compte dans le choix d'un travail et surtout, évidemment, pour les jeunes diplômés qui peuvent choisir parce qu'ils qu'ils ont un bon diplôme. Pour les autres, c'est plus délicat. Et donc, je dis simplement que les chefs d'entreprise doivent prendre la mesure de cette lame de fond qui est liée, encore une fois, très paradoxalement, à l'effondrement du communisme et à l'effondrement du christianisme. C'était, encore une fois, à l'effondrement des religions de l'après, du bonheur après. Encore une fois, pendant des siècles, on a été le troisième petit cochon et pas le premier. On est devenu le premier. Le bonheur, c'est tout de suite. Psychologie positive, développement personnel, bonheur en 15 leçons. Mmh. Voilà, je pense que c'est une catastrophe parce que on a parlé du fracas du monde, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la guerre en Israël. Et face à ce fracas du monde, nous, occidentaux, européens en particulier, nous nous effondrons littéralement dans la quête narcissique du bonheur personnel.
Parce que nous ne croyons plus finalement en rien, en nous-mêmes, quand même un peu.
On croit en son nombril. Je veux mon petit bonheur personnel. Devenez narcissique et sauvez votre peau. Il y a un livre qui s'appelle.
C'est de l'égotisme finalement.
Absolument. On est narcissique. Le bien commun, on s'en fout. Il n'y a plus que son bonheur personnel. Et là où les femmes en Iran nous donnent une leçon de courage, où les femmes en Afghanistan nous donnent une leçon de courage extraordinaire, une merveilleuse leçon de courage, inimaginable pour nous. Nous, on est là. Ben non, ce qu'on voudrait, c'est la paix, puis être heureux, et puis avoir son petit nombril, et puis en 15 leçons avoir le bonheur. On est devenu complètement con pour dire les choses, franchement.
Ah ouais, vous y allez cash. Et pourtant, on est à 7,2% de chômage. Finalement, on est à un chômage qui est beaucoup plus bas qu'il y a quelques années.
À 7% de QI, il disait tout à l'heure.
Je suis sérieux.
Je vous dis ça, on est passé du bonheur différé au bonheur ici et maintenant. Pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, le bonheur, c'était après la retraite. Pour les communistes, c'était après la révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort. Mais aujourd'hui, c'est on veut le bonheur ici, maintenant. On n'a plus qu'une seule vie, on veut le bonheur. Alors, dans ce cas-là, évidemment, le monde de l'entreprise, il en prend un sacré coup. Quiet quit, c'est pas pour rien.
Donc, soyons hédonistes, alors, finalement. C'est ça, épicurien, qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, il faut que le monde a, comme jamais, mon ami, besoin de spiritualité laïque, c'est-à-dire de courage et d'intelligence. Tout mon livre est un plaidoyer pour le courage et l'intelligence dans le cadre d'une spiritualité laïque. Ça veut dire quoi, une spiritualité laïque? Je le dis d'une phrase. La grande question politique, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est pas la question de la révolution de la nation, c'est la question quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux que nous aimons le plus, c'est-à-dire nos enfants. C'est la question de la dette.
Ouais.
Est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question de la guerre. Est-ce qu'on va laisser la guerre avec l'islamisme? C'est la question de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation. C'est la question de la transition écologique. C'est la question de l'école. Toutes ces grandes questions ne se regroupent plus sous l'égide d'un foyer de sens qui est la nation ou la révolution, comme dans 68. Nation à droite, révolution à gauche. Mmh. Mais c'est la question des générations futures qui est devenue la question politique centrale. Ouais. Je suis désolé, je parle très vite.
Mais merci beaucoup, Luc Ferry. Je pense que
c'est une véritable révolution qu'on est en train de vivre sur le plan spirituel.
On rappelle le nom de votre livre et
l'éditeur. La frénésie du bonheur différé au bonheur immédiat.
Merci beaucoup Luc Ferry. À lundi prochain, vous retrouverez David Abiker, bien sûr, dans la matinale de Radio Classique.
Merci à mon ami.
À tout de suite sur Radio Classique, la météo dans quelques secondes.